sexualité, j'ai fait un choix pour essayer de l'aborder, je vous l'ai dit, de façon assez large. Je vais vous dire dans un premier temps un petit peu ce qu'on fait en nutrition humaine et quelle est l'approche de l'évaluation des risques qui sont liés finalement à la nutrition. Quelques chiffres rapidement sur le surpoids et l'obésité. Je vais vous dire comment notre agence, qui est une agence d'évaluation de risque, c'est-à-dire que nous on a une approche qui est uniquement scientifique des problèmes, se préoccupe de l'obésité et quelles sont les propositions qu'on peut faire au pouvoir public pour lutter contre. Je vais vous parler aussi de ce qu'on appelle les allégations. Les allégations, ce sont ces petites mentions que vous voyez sur les produits pour vous dire que le produit est très bon pour la santé parce qu'il y a du calcium, que le calcium c'est très très bon pour les os et que ce serait bien d'en manger un peu plus du calcium, mais surtout du produit qu'on va acheter. Donc je vais vous expliquer quelle est l'approche qu'on peut avoir de cette question-là. Un autre point assez important qui est, on s'est rendu compte que le temps passé devant les écrans, que ce soit la télévision ou que ce soit l'écran d'ordinateur, peut avoir un effet sur notre prise alimentaire et du coup peut avoir un effet sur une éventuelle prise de poids. Et pour terminer, je vais vous expliquer et vous dire en quoi les régimes amaigrissants ne sont pas forcément la meilleure des solutions. Alors, évaluer en nutrition humaine, bon, c'est très très large. Simplement, je vais vous dire assez rapidement que, je ne sais pas si je peux y arriver comme ça, que on a des besoins, ces besoins-là, il faut les satisfaire. Et l'idée, c'est d'être ni dans l'excès, ni dans l'insuffisance. Et ça, c'est la règle en nutrition. À partir du moment où on mange ni trop, ni pas assez, on a toutes les chances de se maintenir à la fois en bonne santé et à la fois en équilibre au niveau de notre poids. Alors, on sait qu'il y a les nutriments, donc ça c'est ce que vous trouvez dans les aliments, et que ce qu'on trouve dans les aliments, on va pouvoir aussi les trouver après dans le médicament. Mais là, il y a des risques de toxicité. Donc nous, ce qu'on évalue, c'est uniquement les nutriments, c'est-à-dire les aliments que vous pouvez consommer et aussi ce qu'il y a dans les aliments, les vitamines, les minéraux, est-ce qu'il en faut beaucoup, pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est un petit peu notre cœur de métier au niveau de l'évaluation des risques nutritionnels. Le surpoids, vous le voyez, alors, ce sont des exemples qui sont pris sur différents pays. Vous voyez que la droite aux États-Unis est déjà la droite la plus haute et celle qui augmente assez rapidement, avec d'autres pays qui sont des pays d'Europe que vous voyez, comme la Pologne, la France aussi en rose. Vous voyez qu'en France, malheureusement, l'obésité augmente petit à petit, même si ces derniers temps, l'augmentation est moins rapide et moins importante qu'elle a pu l'être auparavant. Mais de fait, on est dans des situations dans nos pays où quand on a faim, on peut manger. Et c'est un peu ça le piège, c'est que finalement, on ne sait plus très bien si on mange parce qu'on a faim ou si on mange parce qu'on a juste envie de manger. Donc dans nos pays occidentaux où l'offre alimentaire nous permet de nous alimenter, si on a envie, on pourrait manger du matin au soir. Finalement on peut se faire un petit peu piéger par l'offre et puis par le côté attractif de l'alimentation, de la nutrition qui finalement soit nous occupe, soit tout simplement nous fait plaisir et on a un peu tendance à oublier que finalement on mange surtout pour répondre à ses besoins. Donc on est toujours dans l'idée de pas trop mais suffisamment quand même pour répondre à nos besoins. Aux États-Unis, on voit aussi qu'entre 2001-2002, les zones en rouge et en rouge foncé sont les zones dans lesquelles le niveau d'obésité, le taux d'obésité augmente. Donc les États-Unis, c'est un peu c'est comme si on prenait un télescope dans le temps pour voir ce qui peut arriver ensuite chez nous en Europe. Et ça s'est vérifié, c'est-à-dire que très souvent, malheureusement, les États-Unis ou l'Amérique du Nord ont de l'avance sur nous. Ils ont de l'avance technologique, ils ont une avance au plan économique, c'est-à-dire non pas une avance au sens où c'est mieux, mais au sens où dans le temps, c'est ce qui arrive ensuite chez nous. Donc c'est vrai que quand on a vu l'obésité, les niveaux d'obésité, même de surpoids, augmenter aux États-Unis, on s'est dit oulala, attention, ça peut arriver chez nous, et manifestement c'est le cas. Donc vous voyez aussi dans huit pays, dans tous les pays, on a ce problème. Et la dernière droite, hein, sur le côté, c'est la prévision pour 2015. Donc on voit que quand on fait des prévisions, on se rend compte qu'il y a une tendance qui est une tendance à l'augmentation. Et ça, c'est général à tous les pays. Donc ça, c'est ce qu'on voit au niveau de l'obésité chez les femmes. Vous voyez qu'aux États-Unis, c'est l'histogramme qui est complètement à droite. Aux États-Unis, on voit aussi les niveaux d'obésité les plus élevés, avec des prévisions à 60% en 2015. Voilà, c'est une prévision. Ça peut être freiné si on fait ce qu'il faut. Et chez nous, c'est la même chose. Vous voyez que pour les hommes, on voit à peu près les mêmes tendances. Notre position en France, on n'est quand même pas parmi, peut-être grâce à notre gastronomie, mais on n'est pas les plus mal placés en Europe, puisque le niveau d'obésité n'est pas des niveaux, vous voyez, il est tout en haut, là c'est un exemple chez les femmes, et chez les hommes, les valeurs sont sensiblement les mêmes, et vous voyez ensuite qu'il y a beaucoup de pays, j'arrive pas, voilà, donc nous on est là, et on voit ensuite beaucoup de pays sur des données qui sont pour certaines même un peu anciennes, mais le classement est à peu près celui-là, c'est-à-dire c'est pas en France que la situation est la plus catastrophique, mais justement ce qu'il faut essayer de faire, c'est de garder aussi notre patrimoine, notre gastronomie, et notre équilibre alimentaire naturel au-delà de ce qui peut être proposé très en excès. Alors les risques pour la santé de l'obésité, c'est une augmentation de ce qu'on appelle la pression artérielle. La pression artérielle, c'est la pression du sang qui est exercée sur les vaisseaux. Et le risque à terme, c'est de fatiguer le cœur, donc des risques de maladies cardiovasculaires. Le mot qui est à côté, qui est dyslipidémie, c'est simplement un terme qui dit qu'il y a trop de graisse dans le sang. Donc ça aussi, ça peut aussi tapisser les artères et finalement surcharger la pompe cardiaque. Une augmentation du diabète de type 2, ça on l'observe. C'est une difficulté métabolique c'est une difficulté à métaboliser le sucre, donc on va retrouver des situations métaboliques dangereuses pour la personne. Et on sait que quand les enfants en petits sont obèses, il y a un risque qui est plus important à l'âge adulte. Donc vous êtes jeune, mais vous êtes aussi de futurs parents. Et il faut penser à protéger les enfants dès le plus jeune âge. Et puis différentes complications au niveau osseux, parce que quand on est plus lourd, il y a plus de pression sur les os, des difficultés avec des apnées du sommeil, et différents éléments qui vont diminuer la qualité de vie. Donc comment est-ce que nous on participe à la prévention? Déjà la première chose, c'est que on doit savoir quels sont les facteurs qui sont en cause. Alors tout en haut à gauche, on va, si vous voulez suivre ce qui est écrit là, il y a des prédispositions génétiques, on n'est pas tous égaux par rapport au poids. C'est-à-dire qu'une même personne, d'une personne à l'autre, en mangeant la même chose, il y aura des réponses différentes de l'organisme en stockant plus ou moins. Donc ça c'est une prédisposition. Il y a des périodes qui sont vulnérables dans l'enfance, et on sait maintenant par exemple que l'allaitement maternel, c'est un facteur qui est plutôt positif contre l'obésité, donc c'est bien. Et une période clé, c'est celle de la puberté et de l'adolescence, c'est la période où on a tous des modifications hormonales qui font que avant, en mangeant la même chose, on grossissait pas, et puis là on prend un peu de poids, on stocke un peu plus. C'est une période qui dure un petit peu, et puis en plus, ensuite les choses peuvent revenir se stabiliser. On peut avoir aussi des facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit. Ça peut être la cantine, l'offre alimentaire à la maison, tout ce qui est notre environnement extérieur qui va faire qu'on va s'alimenter d'une façon ou d'une autre. Et ça aussi, ça influe sur nous, et il faut qu'on le sache, de façon à regarder ce que nous offre l'environnement et à dire non, je veux pas ça, je veux plutôt autre chose, je veux plutôt des légumes plutôt que des snacks ou des produits très sucrés, déséquilibrés, très gras qui finalement vont me faire plaisir 5 minutes et puis ne vont pas vraiment me rassasier. Alors clairement, l'obésité, c'est un déséquilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense. Donc il y a une équation qui est très simple. Soit, si je veux réduire le risque d'obésité, c'est de manger moins et de me dépenser plus. On peut jouer vraiment sur les deux leviers. Le problème, c'est qu'avec nos vies un peu sédentaires et avec les nouveaux modes de vie, on risque d'avoir tendance à être assez sédentaire. Donc nous, au niveau de l'agence, qu'est-ce qu'on fait? On évalue de façon collégiale, ça veut dire collectivement le risque. Et il y a beaucoup d'experts en nutrition qui sont sollicités pour essayer de comprendre d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes qui sont liés à l'obésité, mais aussi éviter que l'obésité augmente. Donc on participe aussi, peut-être que vous en avez entendu parler du programme national nutrition santé, on vous a un peu aussi martelé avec les 5 fruits et légumes par jour, vous avez entendu, tout ça c'est des politiques de communication de santé publique qui sont destinées à donner des petits éléments à chacun qui peuvent les aider pour gérer son alimentation. On a dit aussi, vous avez dû voir qu'il n'y a pas de distributeur automatique dans les collèges et dans les lycées, puisque c'est interdit. On avait été interrogé là-dessus, on a dit non, les distributeurs automatiques, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que ça incite à manger. Donc là, on est sur la partie environnement. Qu'est-ce qui fait que dans l'environnement, on va manger plus? Bah, par exemple, un distributeur automatique est juste là, dans le collège, dans le lycée, et qui va faire qu'on va manger, alors que finalement, on n'a pas vraiment faim. Ensuite, donc en termes d'évaluation, nous on a dit voilà, il ne faut pas qu'il y ait de distributeurs automatiques et il y a une loi qui a interdit effectivement ces distributeurs automatiques. Une autre évaluation qui était celle de la collation matinale, ça ne vous concerne pas ou plus, mais dans les écoles primaires, très souvent était pratiquée la collation matinale, c'est-à-dire qu'en plus de petit déjeuner, à la récréation, on donnait à manger aux enfants, et puis de nouveau, à la cantine, ils remangeaient, puis de nouveau, ils mangeaient au goûter, puis de nouveau, ils mangeaient le soir. Donc vous imaginez que le fait de manger comme ça, à 2 heures ou 3 heures d'intervalle en permanence, c'est aussi probablement pas une bonne idée, puisqu'on augmente notre prise alimentaire. Donc on a dit, la collation matinale, il faut pas le faire. On a aussi travaillé beaucoup sur la qualité nutritionnelle des repas qui sont servis en restauration scolaire. Donc, il y a eu une expertise collective qui a permis de proposer des menus ou des repas types avec des règles de composition sur la semaine de façon à ce que quand on mange à la cantine, on puisse manger sur les 5 repas. Alors ça ne s'équilibre pas sur un repas, ça s'équilibre sur une semaine entière. Ça aussi vous pouvez vous le dire, si un jour vous faites une grande fête et vous mangez beaucoup, c'est pas un problème. Si le lendemain on mange un peu moins, ça se rééquilibre. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est vraiment, on raisonne vraiment sur la semaine. Et donc il va y avoir une réglementation qui va faire que les repas qui seront servis en restauration scolaire seront équilibrés. L'activité physique, il est clair qu'on sait que l'activité physique, c'est un élément très important, puisque je vous ai dit, il faut diminuer les apports et augmenter autant que faire se peut les dépenses. Donc l'activité physique et l'éducation physique et sportive au collège et au lycée, et même au primaire, jouent un rôle important puisqu'on augmente la dépense énergétique et puis c'est quand même une période assez agréable dans la scolarité. On donne aussi des repères pour le programme national nutrition santé, donc entre autres les 5 fruits et légumes par jour, combien de poissons il faut manger par semaine. Donc ça, ce sont des petits repères qui peuvent permettre d'avoir des idées sur ce qu'on peut manger. Et puis, il est clair que l'idéal, c'est quand même de manger dans le cadre de repas structurés, c'est de ne pas grignoter du matin au soir, de faire attention à la taille des portions, parce que même sur un repas structuré, un petit plat de pâtes, un gros plat de pâtes, ça n'a pas le même effet. Et pour ce qui concerne les sucres, quand même éviter de boire des boissons sucrées, parce que là, on sait que ça a vraiment une incidence sur notre prise alimentaire quotidienne, donc plutôt si on mange des choses sucrées, les manger en solide plutôt qu'en liquide. Donc tout ça pour vous dire que voilà, on donne des avis, on se réunit entre experts, on se base sur ce qui est connu, ce qui est disponible dans la science, et on essaye de proposer des solutions. Donc un autre point, c'est peut-être de temps en temps, vous allez faire vos courses avec vos parents et vous voyez chez vous des produits sur lesquels il est écrit, par exemple, c'est riche en fibres, c'est à teneur réduite en sucre, c'est source de calcium, ou alors, par exemple, le calcium participe au maintien du capital osseux. Donc vous trouvez des produits sur lesquels on vous dit, si vous en mangez plus, vous irez mieux. Le problème, c'est que ces produits-là, S'ils sont trop sucrés, trop salés, qu'ils déséquilibrent votre alimentation, c'est pas des produits qu'il faut manger sans limite, seulement au motif que on vous dit que c'est bon pour la santé. Donc on sait que plus d'un tiers des consommateurs sont influencés par ce qu'on appelle justement les allégations. Ça s'appelle une allégation, ces mentions où on vous raconte que c'est bon pour la santé, c'est bon pour les os, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les vaisseaux. Et donc on sait très bien que quand on va acheter, quand on va consommer, très souvent, on est influencé justement par ces allégations. Donc nous, on a évalué les allégations et on s'est rendu compte que sur des allégations qu'on nous avait proposé d'évaluer, c'est le ministère qui nous dit « voilà, il y a tel produit sur le marché, il raconte ça, mais est-ce que c'est vrai ?» Donc entre 2000, là j'ai simplement entre 2000 et 2003, vous voyez que par exemple, rien que pour l'année 2003, sur 77 allégations, sur celles qu'on a évaluées, il y en avait 70 qui n'étaient pas fondées. Ça veut dire qu'on nous disait « bah voilà, le produit il est bon pour les os, mais en fait c'était pas vrai ». Il n'y avait pas assez de calcium, ou en tous les cas, ça ne fonctionnait pas. Donc, on peut garder du recul. Maintenant, c'est beaucoup mieux encadré au niveau européen. Voilà des exemples d'allégations qui peuvent être fondées. Par exemple, la deuxième, les acides gras oméga 3 contribuent au bon fonctionnement cardiovasculaire. C'est vrai, sauf que ça peut pas, on peut pas proposer ça sur un produit qui est ultra gras, parce que par ailleurs, s'il est ultra gras, ben, c'est pas très bon forcément pour le système cardiovasculaire. Donc il faut aussi que ces produits soient des produits sains. Par exemple, d'autres allégations qui sont fantaisistes, exemple, pour mieux profiter des bienfaits du soleil, ça ne veut rien dire. Donc on peut toujours vous dire ça, mais vous n'êtes pas obligé de le croire. Qu'est-ce que ça veut dire pour mieux profiter des bienfaits du soleil? Rien. Donc il faut quand même, c'est bien d'arriver à garder du recul par rapport à ce qu'on vous propose et surtout par rapport à la nature des produits. Donc, pour nous, il est très clair que ce qui est dit sur un produit, ça doit s'appuyer sur un fondement scientifique. C'est-à-dire que si c'est bon pour les os parce qu'il y a du calcium, il faut qu'il y en ait suffisamment et il ne faut pas que dans le produit, il y ait n'importe quoi. En ce qui concerne les produits, en ce qui concerne l'offre alimentaire, vous avez là, sur ce tableau, l'évolution de la consommation de sucre par personne entre 1815 et 1970. Et vous voyez que ça a augmenté de 30 fois. C'est-à-dire qu'en un siècle et demi, la consommation de sucre par personne en Angleterre, mais c'est pareil, c'est le cas dans les pays occidentaux, l'évolution de la consommation de sucre a été énorme. C'est-à-dire qu'auparavant, on mangeait beaucoup plus de féculents, on mangeait beaucoup plus de produits dans lesquels on n'avait pas ajouté artificiellement du sucre. Aujourd'hui, l'offre alimentaire est quand même a tendance à proposer une grande quantité de produits sucrés. Donc c'est à chacun de faire la part des choses et se dire oui, on peut manger de tout, mais manger de tout en quantité raisonnable. Les deux creux que vous voyez sont les creux qui sont ceux des deux guerres mondiales. Donc ce sont des périodes où il y a eu moins de sucre, puisque le sucre était quand même un produit de luxe, et qu'à ces périodes-là, et justement, ce sont des périodes où les situations de surpoids et d'obésité n'étaient pas les nôtres, puisque c'est quand même la situation d'abondance qui fait que, si elle est mal maîtrisée, on voit une augmentation de l'obésité. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a une consommation de sucre raffiné qui a vraiment augmenté, ne serait-ce qu'entre 1970 et 2000, puisque tout à l'heure je vous ai montré jusqu'à 70, mais ça continue à augmenter. Voilà par exemple une pâte à tartiner qui vante les mérites du calcium, du magnésium, des vitamines. N'empêche que, donc ça c'est très imagé, n'empêche que si vous en mangez beaucoup, vous n'aurez pas d'intérêt particulier sur vos os et vous aurez plutôt des risques à manger trop de graisse ou trop de sucre par la consommation d'un produit qui est lui-même très déséquilibré. Donc il ne s'agit pas de ne pas en manger du tout, tout est une question de mesure et tout est une question de quantité. Donc maintenant, ces allégations-là sont encadrées, c'est-à-dire qu'au niveau européen, donc vous savez qu'on est dans un processus où les lois et les règlements sont de plus en plus décidé au niveau européen. Et au niveau européen, il est imposé que tous les produits qui vont vanter les mérites sur les os, sur les muscles, sur la peau, soient des produits qui soient des produits sains sur la base de ce qu'on appelle des profils nutritionnels. C'est-à-dire qu'un produit, déjà, s'il vante ses mérites, ça doit être justifié scientifiquement. Ensuite, on ne doit pas déséquilibrer l'alimentation en vantant les mérites d'un produit. Donc, on a dit, ben voilà, il faut trouver une méthode pour que on puisse dire que ce produit est sain ou pas. Et donc, nous, on a proposé un système, et dans le cadran qui est en haut à gauche, le système permet de nous placer des aliments qui pourront porter ce qu'on appelle donc ces allégations nutritionnelles. Et vous allez voir qu'il y a des produits pour lesquels, enfin des aliments qu'on peut facilement considérer comme sains. On va trouver des épinards, des céleris, du tomate, de la tomate, certains poissons. Et donc on sait que dans cette partie-là du cadran, on va trouver des aliments dont on pourra encourager la consommation. Et puis, dans notre partie, dans les autres parties du cadran, des produits qui vont présenter moins d'intérêt au plan nutritionnel, mais qui vont aussi présenter plus d'inconvénients, puisqu'en fait, dans cet axe-là, on va trouver l'augmentation de certains nutriments qu'il ne faudrait pas consommer en excès. Encore une fois, c'est l'excès qui pose problème, hein, c'est pas le simple fait de les consommer. Et, pardon. Et donc, ce qu'on considère, c'est que bah, pour certains produits, très bien, on peut les consommer, mais on ne va pas rajouter des mentions qui diront, voilà, c'est bon pour la santé, il faut en consommer beaucoup. Non, on en consomme un peu. Et ça suffit, ça entre dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais il n'y a pas de nécessité à en encourager la consommation. Un point important, et qui est très lié à nos modes de vie, je vous le disais, c'est le temps passé devant les écrans. Je vous l'ai dit au tout début, on se rend compte que, quand même, le temps passé devant un écran, que ce soit un écran de télévision ou un écran d'ordinateur, par la nécessité de rester immobile, augmente ce qu'on appelle un niveau de sédentarité, donc à partir du moment où on bouge moins, on dépense moins. Et je vous disais tout au début que l'obésité ou le surpoids, c'est un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Donc si vous augmentez les apports, ben, vous augmentez le risque de surpoids, mais si vous diminuez les dépenses énergétiques, vous augmentez aussi le risque de surpoids. Donc c'est vraiment ces deux leviers, et sur ces deux plateaux de la balance qu'il faut arriver à tenir en équilibre. Et le temps passé trop de temps devant un écran de télévision, on s'est rendu compte vraiment, et maintenant il y a beaucoup d'études qui le montrent, et il n'y a plus aucun doute sur la question, ça augmente le risque d'obésité. Ça augmente pas seulement le risque d'obésité, à l'âge adulte ça peut aussi augmenter le risque cardiovasculaire, ça peut augmenter la sédentarité, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. L'individu n'est pas fait biologiquement pour être sédentaire. Donc quand on ne bouge pas, finalement on est un peu... On est un peu contre nature, puisque notre nature, c'est pas de rester assis sur une chaise du matin au soir, c'est de bouger, de s'activer. Bouger, c'est pas seulement faire du sport à fond, ça peut être aussi faire des choses dans le jardin, aller chercher son pain à pied, ça peut être monter les marches au lieu de prendre l'ascenseur. Tout ce qui nous permet de bouger fait diminuer la sédentarité et joue un rôle positif dans ce sens-là. Donc on voit qu'il y a dans nos pays le temps passé devant la télévision peut aller jusqu'à 4 heures selon les pays. Et on s'est rendu compte aussi que si on trace des courbes par exemple qui concernent les heures passées devant la télévision, le nombre de voitures dans un pays et le pourcentage d'obèses, étonnamment, ces courbes-là se suivent. Donc, la question de l'activité physique, le fait de bouger, le fait de prendre peut-être un peu moins la voiture et de se dire, tiens, pour aller de là à là, je peux y aller à pied, finalement, ça peut être très agréable, et puis c'est quand même beaucoup plus sain. Mais voyez, il y a quand même une relation. Il y a des études aussi, beaucoup d'études scientifiques. Il y a des scientifiques qui se penchent sur la question. Et on s'est rendu compte que quand on diminue, on le fait exprès, on prend deux groupes et on diminue dans un groupe le temps qui est passé devant un écran, on se rend compte que d'un seul coup, l'indice de masse corporelle, qui est en fait un indicateur de la masse, et notamment de la masse grasse corporelle, qui nous permet d'avoir un élément de positionnement en termes de surpoids ou d'obésité, ben d'un seul coup, à partir du moment où on intervient et qu'on diminue le temps passé devant la télé, hop, l'indice de masse corporelle chute. Donc il y a beaucoup d'études qui montrent ça, et puis c'est lié au fait qu'on bouge un peu plus, mais c'est peut-être lié aussi, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience ou si vous en êtes rendu compte, mais très souvent, quand on est devant la télé ou un ordinateur, on a tendance à manger en même temps. Et là, on aggrave la situation, c'est-à-dire que non seulement on ne bouge pas, donc on appuie sur un plateau de la balance, mais pas le bon, mais en plus, on soulève l'autre, parce qu'on apporte de l'énergie en plus, et puis en général, quand on mange dans ces situations-là, c'est pas des pommes ou des légumes, donc du coup, on appuie sur les deux leviers, et c'est pas forcément ce qui peut fonctionner le mieux. Donc, on bouge moins, et on a tendance à manger plus. Encore un effet entre l'apport énergétique total et le temps journalier devant la télé, vous voyez que ce soit les filles ou les garçons, on a une augmentation de l'apport énergétique avec le temps passé devant la télé. Et puis on sait aussi malheureusement qu'en fonction du statut économique des parents, le risque d'avoir du surpoids ou de l'obésité augmente, c'est-à-dire que dans certaines situations défavorisées, finalement quand on n'a pas la possibilité forcément d'acheter des choses, on dit que les légumes, les fruits et légumes sont chers. C'est pas faux. Néanmoins, on peut quand même avoir en tête le fait que les plats préparés, c'est très très cher. Et souvent, quand il faut aller vite, on achète des plats préparés qui peuvent, dans certains cas, être un peu plus sucrés ou un peu plus sucrés, un peu plus gras ou un peu plus salés que ce qu'on peut faire à la maison. Donc, l'idéal, c'est peut-être d'aller vers des produits ou vers la cuisine faite à la maison, de façon à maîtriser quand même ce qu'on met dans notre casserole et dans notre assiette. Et puis, avoir des coûts. Ça peut permettre d'avoir des produits et de faire des repas qui peuvent être des repas qui ne soient pas plus chers, qui soient tout aussi bons, mais qui certes demandent un peu de temps. Donc peut-être que l'approche produit et l'approche cuisine à la maison peut être une approche intéressante pour diminuer le coût. Donc en résumé, pour le temps passé devant la télévision, il paraît vraiment très clair maintenant que le temps passé devant l'écran, encore une fois, joue un rôle très important sur le risque de surpoids et d'obésité. Puis voilà, en plus, c'est peut-être pas mal d'aller prendre l'air plutôt que de passer 44 heures devant l'écran, ce qui est quand même énorme dans une journée. On s'est rendu compte aussi, un exemple, c'est qu'une télévision dans la chambre des enfants, c'est un facteur de risque. C'est évident, parce que c'est une incitation. Vous voyez, on est systématiquement dans la situation de l'incitation, c'est-à-dire qu'on peut faire changer l'environnement, faire en sorte que l'offre alimentaire soit plus saine, faire en sorte que lorsqu'on est parent ou même lorsqu'on est jeune enfant ou adolescent, se dire non, finalement, j'ai pas envie de passer 4 heures devant la télé. Je peux regarder un peu la télé de temps en temps, mais c'est tout. Donc il y a pas mal de facteurs sur lesquels on peut tous agir de façon à réduire ce risque-là. Donc un dernier point que je vais aborder avec vous, il arrive qu'on se retrouve en surpoids ou en situation d'obésité. Et la Direction générale de la Santé nous a demandé, dans le cadre du Programme national Nutrition Santé qui va démarrer là, le PNNS 3, donc c'est sa troisième édition, de faire une évaluation des régimes amaigrissants. Et on s'est dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de surpoids et que ce surpoids et cette obésité pourraient trouver une solution dans les régimes par la pratique de régimes amaigrissants. Sauf que les régimes amaigrissants, c'est quand même une manipulation du régime qui peut, quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, poser des problèmes qui soient des problèmes de santé. Donc on a des chiffres, on l'a vu tout à l'heure, plus précisément en France, le surpoids et l'obésité, pour le surpoids on est à 32% chez les adultes et à 15% pour l'obésité chez les sujets de plus de 18 ans. Et puis, sur l'enquête qu'on a faite, on s'est rendu compte quand même que 21/4 des adultes ont déclaré avoir suivi un régime amaigrissant dans l'année qui a précédé l'enquête. Et puis, très étonnamment, et là on est sur un point qui est assez, assez troublant, c'est que 15% des femmes vraiment minces ont déclaré avoir suivi un régime alimentaire pendant l'enquête. Et ça, c'est extrêmement troublant parce que il y a quand même une image du corps qui est dans nos sociétés paradoxalement assez exagérée, allant vers l'idéal de la femme super mince. Et on voit l'effet là, notamment chez les femmes, c'est un phénomène qu'on voit moins chez les hommes puisque socialement c'est un peu différent. Et ces femmes-là pensent qu'il faut absolument être fille de fer pour se sentir jolie ou pour se sentir appréciée et vue positivement du regard des autres. Donc 15% de femmes minces, le problème c'est que quand on est déjà mince ou à peine en surpoids sans risque, et ça il n'y a qu'un médecin ou un diététicien qui peut vous le dire, aller faire un régime amaigrissant finalement pour rien, c'est carrément risqué. Donc on a fait cette évaluation et on s'est rendu compte à l'issue de l'évaluation, donc là on a une méthode qui permettait d'abord d'identifier les régimes, on a pris les 15 régimes les plus classiquement suivis, donc on a été sur internet, on a regardé ce qu'il y avait en librairie, et puis on a dit bah, maintenant on va regarder quelles sont les conséquences biologiques de ces régimes. Donc on en a pris, vous les voyez là, ces 15 régimes, des régimes les plus connus, certains doivent vous parler. On les a utilisés comme des illustrations, c'est-à-dire on les a pris en exemple, et on a découpé les phases, c'est-à-dire on a choisi dans chaque régime amaigrissant, il y a des phases très très difficiles, des phases où ça devient un peu plus facile. Donc on a identifié ces phases-là, et de toute façon, une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pour maigrir, il faut aller prendre dans les réserves. Donc le principe même des régimes, c'est de diminuer les apports. Mais quand on diminue beaucoup les apports et qu'on le fait d'un seul coup, on risque aussi, je vous l'avais dit tout à l'heure, de ne plus répondre à ses besoins. Je vous ai dit que la nutrition, c'est répondre à ses besoins, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. Dans le cadre d'un régime, s'il est suivi un peu longtemps, on peut être dans la situation du pas assez. Et ce pas assez peut créer des déficits en vitamines, en minéraux. Et donc on a suivi une méthode et on a été chercher les apports en fer, en calcium, en magnésium quand on pratique ces régimes-là. Donc on les a classés, il y a plusieurs types de régimes. Il y a des régimes, vous les voyez à gauche, extrêmement hypocaloriques, en dessous de 800 kilocalories. Pour vous donner, ou pour vous rappeler, parce que vous avez dû le voir en cours, l'apport énergétique d'une personne adulte, c'est à peu près 2000. Donc vous voyez, sur 2000, si au lieu de manger pour 2000 kilocalories, vous mangez pour 800 kilocalories, c'est quand même très très peu. On risque d'avoir un peu faim, et puis on risque surtout de ne pas avoir beaucoup de vitamines, de minéraux, de fibres. Voilà, donc après on en trouve entre 800 et 1200, entre 1200 et 1500 et aux alentours de 1500. Et puis il y a plusieurs façons de manipuler le régime. Soit on enlève tout ce qui est glucides, c'est-à-dire tous les sucres, soit on enlève plutôt toutes les graisses, soit on mange essentiellement des protéines. Et dans chaque situation, il y a des risques qui sont différents. Par exemple, quand on mange trop de protéines, les protéines... C'est le rein qui va être sollicité quand on mange beaucoup de protéines, et donc en mangeant trop de protéines, on risque d'altérer la fonction rénale. Donc on a identifié trois types de risques. Un premier type de risque sur les os et sur la masse musculaire, parce que si vous mangez trop de protéines, c'est le rein, mais si vous en mangez pas assez, finalement, vous risquez de perdre de la masse musculaire. On a un risque sur le rein et sur le foie. Donc là aussi, on va solliciter nos fonctions, la fonction du rein et la fonction du foie. Et puis, on risque surtout, à force de manger n'importe comment, de dérégler tout notre métabolisme et de se retrouver, de façon imagée, à grossir avec un bout de salade. Donc l'organisme se met en réserve, en situation de retenir tout ce qu'on lui donne parce qu'on lui donne plus assez. Et après, quand on va lui redonner suffisamment, ben, finalement, il aura pris l'habitude de stocker. Donc à peine on va augmenter les apports énergétiques, ben, du coup, on va se mettre à grossir, alors qu'avant, pour la même quantité, on ne grossissait pas. Donc, jouer avec les régimes amaigrissants, ça présente un risque. Donc, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est qu'on a regardé quels étaient les besoins. Donc, ici, la bande verte, c'est nos besoins. Et vous voyez qu'en fonction des régimes, bah, par exemple en calcium, soit on est très au-dessus, soit on est vraiment très en dessous. Vous imaginez, si vous êtes là en calcium, comment les os peuvent continuer à se renouveler? Donc, il y a même des risques de fracture. Ça, c'est pour le calcium. Toujours pour l'os, si on mange trop de protéines, on a des fuites de calcium. Donc vous voyez là, ici c'est les besoins. Donc imaginez quand on est dans ces zones-là, à quel point on surcharge l'organisme avec des protéines dont il n'a pas besoin et dont il faut se débarrasser. Et puis, on va avoir des déséquilibres énergétiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement. Quand vous amenez à manger beaucoup, et puis pas beaucoup, et puis de nouveau beaucoup, et qu'on fait comme ça des allers-retours, votre organisme ne sait plus où il en est, votre métabolisme, notre métabolisme qui est très finement régulé, va se retrouver dans une situation où toutes ces régulations très fines vont être déréglées, et ce dérèglement va faire que, après un régime amaigrissant, le risque, c'est de reprendre du poids très vite. Donc, le risque, c'est d'avoir des échecs à répétition, et on sait que très souvent les gens pratiquent des régimes, puis regrossissent et puis repratiquent des régimes. Donc un régime, c'est pas une parenthèse, c'est pas je me dis ah ben tiens, j'ai pris du poids, je maigris, et puis ensuite, une fois que j'aurai maigri, je pourrai remanger comme je peux. Non, manger c'est un équilibre, ça se fait de façon mesurée, pendant toute la vie, de façon agréable, sans excès, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc le pire, c'est encore chez des populations spécifiques. Donc là-dessus, je vais pas m'attarder, mais simplement dire que un régime, a fortiori, quand on est en période de croissance, quand on est en période de développement, quand on est en période pubertaire, ou alors quand on a une activité physique intense, tout ça, c'est des situations qui vont aggraver les risques qui sont liés à la pratique des régimes. Et puis, un dernier mot sur le fait de pratiquer de l'activité physique dans les situations de restriction. De toute façon, modifier son alimentation toute seule et puis se dire que demain je recommence comme avant-hier avec mon alimentation, ça n'apporte rien. Et on sait aussi que si à un moment donné on choisit de perdre du poids de façon durable, il faut que ce soit fait avec un médecin ou avec un diététicien. Il faut être sûr qu'on en a besoin. Il ne s'agit pas d'être dans du 38 et de dire « maintenant je vais rentrer dans du 36, super !» parce que demain ça risque d'être du 42. Donc il vaut mieux pas jouer avec ça. S'il y a un réel besoin pour la santé, il faut aller voir son médecin. Le médecin dira « oui, non, c'est la peine, c'est pas la peine. » Et puis comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? Et puis quelque chose qui fait que quand on le fait vraiment, quand on le fait en étant accompagné d'un médecin, si on y associe l'activité physique, ben on voit que, là aussi il y a des études qui montrent que à partir du moment où il y a une activité physique, avec l'activité physique, surtout, on va éviter de perdre du muscle, on va perdre du poids plus facilement, on aura moins faim, et en plus, on va s'installer dans une perte de poids qui peut être durable. Mais tout ça doit être fait de façon accompagnée, et surtout doit être indiqué. Il ne s'agit pas de dire « ah bah tiens, je vais regarder le dernier régime à la mode ou je vais payer super cher le livre je ne sais pas lequel », le regarder, le faire tout seul, le faire pendant 2 mois, arrêter, recommencer. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire seul parce que ce n'est vraiment pas dénué de risque. Et paradoxalement, il y a un risque important, c'est de prendre plus de poids encore que ce qu'on voulait perdre initialement. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu, mais c'est une situation que beaucoup de cliniciens voient dans leur cabinet avec des femmes qui arrivent qui n'ont pas du tout besoin de perdre du poids, ou si peu, mais que pour des raisons esthétiques. Et là aussi, on peut se poser des questions sur l'esthétique, parce que finalement, pourquoi un seul modèle unique de femme super mince? Ça n'a pas forcément de sens. et de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour ma santé? Et là, on le fait en étant accompagné par un professionnel de santé. Donc, il est très clair que la recherche de poids, si c'est pas indiqué, tout simplement, il faut pas le faire. Donc, c'est vraiment important de considérer qu'on doit être accompagné par un diététicien, par un médecin. Ça fait 3 fois ou 4 fois que je le dis, mais je pense qu'on ne dira pas assez. L'idéal, c'est aussi de se poser la question du pourquoi est-ce qu'on a pris du poids. Donc, ça aussi, ça peut aider à en perdre et puis à ne pas en reprendre si vraiment il est nécessaire d'en perdre, et c'est pas toujours le cas. Considérer que l'activité physique, au-delà d'être un facteur de stabilisation du poids, c'est aussi une pratique qui peut faire partie de entrer dans nos vies. Et même si on le dit beaucoup, une alimentation qui soit équilibrée, qui soit diversifiée, avec surtout des apports énergétiques qui ne dépassent pas nos besoins, c'est-à-dire simplement manger quand on a vraiment faim, ne pas manger pour s'occuper, ne pas manger juste parce qu'on a envie, mais manger pour répondre à nos besoins, c'est-à-dire écouter son corps et se dire, si j'ai faim, si j'ai vraiment faim, je mange. Si j'ai pas faim, je ne mange pas. Et quand je suis à table, si je n'ai plus faim, je ne mange plus. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, voilà, répondre à mes besoins, être dans l'équilibre et écouter son corps. Et ça peut fonctionner. Donc, cette idée-là d'être vraiment dans l'équilibre entre les apports et les dépenses, c'est un facteur qui est vraiment un facteur de santé. Merci. Merci beaucoup de votre attention.